Bonjour à tous. Je vous avoue que c'est pas forcément facile de prendre la parole après ces témoignages qui touchent. Parce que quand on entend des vies comme ça, radicalement transformées, des vies bouleversées, forcément on pense à la sienne. Je sais pas vous, mais ça fait écho profondément à ce qu'on vit, à ce qu'on a vécu, et les souvenirs remontent. Et c'est touchant. C'est beau de voir une église remplie à craquer. Alors, on est une église vivante et souvent bien remplie, mais là, je crois qu'on repousse toujours les limites, hein, si on pouvait repousser les murs même. Et s'il y a toujours beaucoup de monde dans les baptêmes, c'est parce que, déjà, nous, en tant que chrétiens, quand on apprend que quelqu'un va se faire baptiser, tout de suite, il y a une petite attention et quelque chose qui s'allume. Et puis, on se pose la question, tiens, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Et bien sûr, ça fait remonter nos propres souvenirs, notre propre démarche. On se rappelle de nos baptêmes. Le mien était... Il n'y avait pas la vidéo à mon époque et moi, j'ai tellement pleuré dans mon baptême. Tout le monde pleurait. J'ai fait pleurer toute l'assemblée. Mais bon, mais c'était beau. On a cette question, mais qu'est-ce qui se passe dans la vie de cette personne pour qu'elle décide comme ça de se faire baptiser? Vous savez, dans l'église catholique et dans certaines églises protestantes, on baptise des enfants, des bébés. Et donc là, on comprend que c'est une démarche des parents et l'enfant n'a pas, ne fait pas en général cette démarche de manière consciente. Mais là, ce sont des adultes qui décident en plus au XXIe siècle de faire un acte qui semble très poussiéreux, très religieux. Et donc c'est étonnant, c'est surprenant. Et puis, j'imagine aussi, je me mets à la place de vous qui êtes des amis, qui êtes de la famille, qui n'êtes pas chrétien peut-être, qui ne connaissez pas ce genre d'église. Et peut-être vous vous dites, vous êtes venu ce matin avec cette question, mais qu'est-ce qui s'est passé dans cette personne que je connais bien? Fait sa crise mystique, enfin, qu'est-ce qu'il y a, quoi? Et ce que je voudrais dire, alors je vais être court, je vais essayer de faire un truc laser ce matin, comme on dit ici. Ce que je voudrais dire, c'est que ce n'est pas l'attrait d'une religion qui fait qu'une personne veut se faire baptiser. Ce n'est pas non plus le désir de rejoindre un groupe de personnes très sympathiques. Je pense qu'ici, on est des gens très sympathiques, on l'a entendu, et c'est chouette quand même, hein? Mais ce n'est pas ça la raison. Ce n'est pas non plus parce que ces personnes auraient trouvé une spiritualité qui donne sens à leur vie. Toutes ces choses, ce sont des conséquences, mais ce n'est pas une cause, ce ne sont pas des causes. Et ce que j'ai envie de recentrer par ce petit message, c'est que je crois la cause fondamentale qui fait qu'une personne un jour décide de se faire baptiser, c'est qu'elle a rencontré une personne. Et ça fait partie de ces rencontres de la vie. Vous savez, il y a des rencontres comme ça qui changent notre vie, qui bouleversent notre vie. Et ces personnes ont rencontré Dieu. Et on l'a pu entendre dans ces témoignages émouvants. Elles ont rencontré Dieu. Et pas du tout ce Dieu qu'on peut avoir dans les images, où on peut avoir cette impression d'un Dieu qui existe, mais très 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 lointain dans le ciel, etc. Elles ont rencontré un Dieu vivant aujourd'hui, un Dieu qui parle, qui leur a parlé, un Dieu qui les a écoutés. Elles se sont senties écoutées, on le voit très nettement dans ces témoignages. Et puis même encore plus que ça, mieux que cela, un Dieu qui répond. Un Dieu qui répond à mes problèmes aujourd'hui. Et encore plus que cela, un Dieu qui aime. Ça, je crois que c'est une constante dans tous les témoignages, c'est l'amour de Dieu. Et vous savez, s'il y a quelque chose qui peut transformer notre vie, c'est l'amour. Les paroles, les théories, c'est bien, ça peut être très intéressant, mais ce qui peut vraiment bouleverser et changer notre vie, c'est l'amour. Alors le point de départ, c'est une rencontre personnelle avec Dieu. Et vous savez, Dieu veut tellement rencontrer les êtres humains, il veut tellement nous rencontrer, qu'il a fait quelque chose d'extraordinaire, c'est qu'il a quitté le ciel, il a quitté son palais de gloire, et il est venu à travers une personne qui s'appelle Jésus-Christ. Il a pris le corps, il est devenu un homme, un être humain, et il a vécu notre vie, avec nos limites, avec les aléas de notre existence. Et il sait et il comprend parfaitement notre expérience humaine. Et c'est à travers cet homme que Dieu nous parle. Alors, je vais reprendre un passage de la vie de Jésus qui est rapporté dans les évangiles. Et Jésus, à 30 ans, il s'est fait baptiser, pas pour ses péchés, mais pour le péché des hommes. Il a voulu s'identifier à nous. Il s'est fait baptiser. Et à partir de là, il est allé sur une plage, comme vous irez, alors je n'y serai pas, mais vous y serez tout à l'heure à cette plage, le Petit Travers. Et sur cette plage, il a rencontré des hommes ordinaires qui étaient en train de travailler. Ils étaient en train de pêcher. Et je vais lire quelques phrases de l'évangile de Matthieu. Donc Jésus marche le long de la mer de Galilée, et puis il voit deux frères, Simon, appelé Pierre, et André, son frère. Et ils jetaient un filet dans la mer, parce qu'ils étaient pêcheurs de poissons. Et Jésus leur dit, « Suivez-moi, et je vous ferai pêcheurs d'hommes. » Et là, il y a quelque chose d'extraordinaire qui se passe. Aussitôt, ils laissent leur filet et le suivent. Là, on peut les imaginer, ils lâchent leur filet, et paf, ils se mettent à suivre Jésus. Et Jésus continue à marcher sur la plage, et étant allé plus loin, il vit deux autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, qui étaient dans une barque avec Zébédée, leur père, et qui réparaient leur filet. Et là, même scénario, Jésus les appelle, et aussitôt, ils laissent la barque et leur père, et se mettent à suivre Jésus. Et je voudrais résumer cette histoire par une phrase que moi personnellement j'ai eue sous les yeux pendant des années. Le jour de mon baptême, ma tante m'a dit « je pense que j'ai reçu ça pour toi ». Elle l'a fait écrire sur une ardoise et puis elle me l'a donnée, et c'était sur mon bureau pendant des années. « Viens, suis-moi, et je ferai de toi un pêcheur d'hommes ». Et c'est vraiment la phrase centrale dans cette histoire où Jésus rencontre Simon, André, et puis il leur dit cela. Viens, suis-moi, et je ferai de toi un pêcheur d'hommes. Je vais souligner quatre points. Le premier point, c'est que c'est d'abord Jésus qui voit les gens. C'est Jésus qui a vu Pierre, André, et Jacques et Jean. Ce ne sont pas eux qui ont vu Jésus, puis qui ont couru après Jésus, puis ils ont dit « je veux te suivre ». Mais c'est Jésus qui, de loin, les a vus et s'est approché d'eux. Pierre, en fait, il était occupé, il travaillait, il réparait leurs filets, ils étaient dans leur activité. Mais Jésus le voit, s'approche et lui parle. Vous savez, bien souvent, on pense que c'est l'homme, que c'est l'être humain qui cherche Dieu et qui le trouve par sa piété, par ses efforts, par tous les moyens qui sont à sa disposition. Mais en fait, en réalité, quand on lit la Bible, on apprend qu'en fait, avant même que nous le cherchions, Dieu nous cherchait et c'est lui qui nous trouve. Et ce qui est beau, c'est que c'est Jésus qui appelle et c'est sa voix qui vient vers nous et qui nous parle. Alors ce matin, on est là, dans cette salle, et je sais, et nous savons, que Jésus est là. Il a fait cette promesse, si deux ou trois, et je pense qu'on a atteint le quota, sont réunis, je serai au milieu d'eux. Jésus est là. Et Jésus nous voit. Et il connaît chacun de nous dans cette salle. Il connaît extrêmement bien nos vies. Lui qui est Dieu, le Fils de Dieu. Il voit tout. Il voit notre vie, il voit notre passé, il voit notre présent, il voit même notre avenir. Il connaît nos joies, nos peines. Il voit nos pensées. Il voit même ce qu'on s'efforce de cacher aux autres, ce qu'on enfouit en nous, ce qu'on cache même à nos propres yeux, parce qu'on a honte. Et si on est un être humain, normal, je crois qu'il y a des choses dans notre vie dont on a honte. Des choses que peut-être on a subies, ou peut-être que nous on a fait subir, mais qu'on veut cacher. Et Jésus voit tout. Il voit tout cela, d'un simple regard. Il voit même ce qu'on appelle, ce que la Bible appelle péché. Péché, c'est tout ce qui déplaît à Dieu. C'est tout ce qui s'oppose à sa justice. C'est tout ce qui, dans notre vie, participe à l'injustice dans ce monde, au mal dans ce monde. Et si vous êtes comme moi, une personne normale, alors vous reconnaissez, votre conscience vous dit qu'un jour, vous avez participé à faire du mal à quelqu'un. Personne n'y échappe. Et c'est ici le premier miracle que prononce, que proclame Jésus. C'est que voyant tout de nous, voyant absolument tout de nos vies, il ne nous juge pas. Il ne nous rejette pas. Comme Maëva le disait de manière si touchante, Dieu a fait ce choix de ne pas nous rejeter à cause du mal qu'il voit en nous. Mais voyant tout de nous, il dit, je suis venu non pour juger, mais pour sauver. Et ça, c'est le premier miracle. Viens, suis-moi, et je ferai de toi un pêcheur d'hommes. Deuxième chose que je voudrais souligner, c'est qui Jésus appelle-t-il ? Quel genre de personne Jésus appelle-t-il ? Des gens mystiques, des gens portés vers la spiritualité de manière naturelle. Quand on écoute précisément les témoignages des gens, on voit qu'il y a tout un panel, tout un tas de couleurs, des gens de tout horizon. Une erreur fréquente quand on pense au baptême, et pendant des années j'ai accompagné des jeunes donc, qui ont grandi dans l'église, et bien sûr quand on voit les baptêmes, ils se disent « oui, eh ben, un jour moi, je me ferai baptiser ». Mais une erreur très fréquente que j'ai rencontrée, c'est d'entendre quelqu'un me dire « le jour où je serai assez bien, le jour où j'aurai atteint ce niveau-là dans ma piété, dans ma foi, je me ferai baptiser ». Et là, il y a une erreur parce que la vérité, c'est que jamais, jamais, nous ne serons dignes de Dieu. Jamais nous ne serons prêts, assez prêts, assez saints, assez bons, assez bien pour répondre à la justice de Dieu. Jamais. Donc c'est se tromper, c'est vraiment s'illusionner de croire qu'un jour nous serons assez religieux, assez plaisants pour Dieu pour aller dans le baptême. Et bien au contraire, Jésus a montré, Jésus a parlé. Et il a dit, je ne m'adresse pas à des gens saints, à des gens qui vont bien, à des gens qui arrivent à suivre la religion. Mais au contraire, je m'adresse à des gens qui sont malades intérieurement, des gens qui à l'intérieur ne vont pas bien, voire très très mal, qui sont en détresse, qui sont parfois désespérés, peut-être même à bout. Et vous savez, souvent ce qui revient, c'est que dans un témoignage, une personne se met à suivre Dieu parce qu'elle est à bout, parce que c'est que dans ces circonstances qu'on cesse de compter sur notre propre force pour plaire à Dieu et qu'on se tourne vers lui, qu'on s'abandonne et qu'on attend de Dieu, que de lui, son salut. Jésus a utilisé une image quand il est venu et il a parlé du péché comme d'une maladie. Et en fait, la triste nouvelle pour tous les êtres humains, c'est que nous sommes tous gravement malades. D'une maladie qui s'appelle le péché. D'une maladie qui fait que nous ne pouvons pas nous empêcher, d'une manière ou d'une autre, à faire quelque chose qui déplaise à Dieu. Et la triste, la grave conséquence de cela, c'est que à cause du fait que Dieu est juste, lui qui est amour, lui qui est protecteur de la justice et de tous les opprimés, il y a une condamnation sur chaque être humain. Il y a un jugement. Nous sommes tous malades. Et Jésus a dit, je ne suis pas venu pour ceux qui sont bien portants, pour ceux qui se pensent bien portants, mais je suis venu pour ceux qui se savent malades, pour ceux qui reconnaissent que l'homme ne peut pas se sauver lui-même. Seul celui qui comprend qu'il est malade écoute le médecin et prend le remède qu'il propose. Et en cela, Jésus s'est proposé comme un médecin. Alors quand Jésus appelle Pierre, Simon, quand Jésus appelle les hommes, il ne dresse pas une liste, un catalogue de toutes nos fautes. Il dit « Ah, t'as vu là, 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 tout ce que t'as mal fait. » Non, ce qu'il dit est toujours déroutant, toujours surprenant pour un être humain. Il nous dit « Je suis la vie, je suis le chemin, je suis la lumière, je suis ta solution. » Pour toi aujourd'hui. Je suis venu pour toi. Je suis celui qui t'aime comme tu es. Un jour que Jésus parlait aux foules, il est monté, peut-être un puits, enfin, il est monté sur un petit muret, puis il a crié, il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos pour vos âmes. Ceux qui se mettent à suivre Jésus, ce ne sont pas les purs, ni les saints, ni les forts, mais ce sont ceux qui ont l'âme fatiguée, assoiffée, et qui savent que leur âme est en train de dépérir. Jésus nous aime comme nous sommes. Viens, suis-moi, et je ferai de toi un pêcheur d'hommes. Il y a un deuxième très grand miracle, c'est quand il dit « Je ferai de toi ». Ce que j'admire toujours, et je ne me lasse pas de cela, de voir que la Bible contient des mots si simples, mais qui contiennent des promesses et des vérités si puissantes. « Je ferai ». Jésus ne dit pas « Deviens un saint, reprends-toi, fais des efforts, change !» Quand Jésus vient et te rencontre, il te dit « Je ferai pour toi, je ferai de toi. » Peut-être que tu as déjà essayé de changer par toi-même. Peut-être que tu as déjà essayé de devenir une meilleure personne, comme je crois Gabriella ou qui disait avant, elle était une personne méchante. Et j'imagine que quand elle s'en rendait compte, elle désirait changer, mais elle n'y arrivait pas. En fait, on n'arrivera jamais à vraiment, vraiment, vraiment changer. Et la première chose que Jésus fait, je ferai, que la première chose que Jésus fait pour nous, c'est quelque chose qui est complètement à l'envers de notre logique, c'est qu'il meurt, c'est qu'il va à la croix, c'est qu'il accepte consciemment d'aller se faire crucifier sur une croix et de mourir. Et quand il le fait, il ne le vit pas sur un plan humain, juste victime d'un complot, comme on peut connaître l'histoire du Sanhédrin avec les Romains envahisseurs, etc. Pas du tout. Quand il fait cela, cet acte, il a conscience de venir devant son Père, le Dieu juste, de s'offrir comme une victime à la place des hommes, pécheurs. Parce que la fin du péché, ça, d'après la loi de la justice de Dieu, c'est la mort. Et lui, quand il fait cela, il a conscience de venir sur la croix comme cette victime que Dieu demande. Victime expiatoire. La première chose que Jésus fait, c'est de mourir à notre place pour que nous puissions vivre. Et vous savez, ce n'est pas parce que Dieu aime qu'il pardonne. Si c'était aussi simple, mais ce n'est pas comme ça que ça se passe. Parce que Dieu est juste. Et l'amour ne peut pas effacer comme ça les choses. Il faut que quelqu'un meure à notre place. Et Jésus l'a fait. Et ça, c'est peut-être le plus grand miracle. Et c'est pour cela que nous savons en tant que chrétiens, que nous savons pertinemment que nous sommes en paix avec Dieu. Que nous sommes pleinement pardonnés par Dieu. Ce ne sont pas à cause de nos prières, de nos actes de piété, de nos jeûnes, etc. Ça, ce sont des conséquences, des réponses. Nous savons que nous sommes pardonnés, que nous sommes pleinement en paix avec Dieu parce que Jésus-Christ est mort sur la croix à notre place. Et ça, c'est la toute première chose que Jésus fait pour toi, pour moi, pour ses disciples, pour ceux qui l'écoutent et qui veulent le suivre. Je ferai. Mais Jésus ne s'arrête pas là. Il y a une autre chose qu'il fait et qui est grande et magnifique. Il dit « Je fais de toi un enfant de Dieu ». Et son Père devient ton Père. Et son Esprit vient en nous. Et cet Esprit crie en nous. Il nous donne un cœur de fils et de filles. Et nous crions « Papa, Papa ». Et puis, on connaît la vie de ces hommes, ces pêcheurs qui pêchaient des poissons. Et ces hommes, ils ont révolutionné le monde. Ils sont devenus des apôtres, 12. Et avec cela, il y a encore aujourd'hui des gens qui se réunissent un dimanche matin dans une église en 2018 à cause de ces hommes-là. Jésus, fais de toi quelqu'un dans ce monde. Jésus, fais de chacun de ceux qui veulent le bien le suivre une personne qui réussit sa vie. Et ça, c'est beau parce que souvent, quand on arrive à Jésus, on arrive en vrac, on arrive avec un échec. Souvent, c'est comme ça, une impasse, et on ne sait plus où aller. Mais le miracle, c'est que quand Jésus dit « Confie-moi ta vie, je vais m'en occuper », il ouvre un chemin, il ouvre une route dans le désert, un chemin dans l'impasse, et là, un avenir vient. Vous savez, ce n'est pas pour rien qu'il dit « Je suis le Dieu de l'espérance ». C'est qu'en n'importe quelle situation, lui qui est Dieu, il crée l'espérance, il crée le salut. Et quand il sauve, ce n'est pas juste ton âme, un truc évanescent, un truc. C'est aussi concrètement ta vie aujourd'hui, ta situation, tes enfants, ton emploi, tes finances. Tout cela est touché par l'amour de Jésus et ça change vraiment. Suis-moi. Suis-moi. Je ferai de toi un pêcheur d'hommes. Mon dernier point, c'est de se dire, mais finalement, qu'attend Dieu de nous? Quelle est ma part? Eh bien, comme le dit ce verset, suis-moi. Regarde tout ce que j'ai fait pour toi et suis-moi. Vous savez, ce mot « suivre » en grec, littéralement, c'est « venez derrière moi ». C'est-à-dire que Jésus passe devant ta vie, c'est lui qui se prend à la limite tous les coups, c'est lui qui fraye le chemin et toi, tu n'as juste qu'à le suivre. Et là, ta vie devient beaucoup, beaucoup plus facile. Je ne dis pas que la vie chrétienne est facile, mais elle est beaucoup plus simple que si on marche sans Jésus dans ce monde. Et là, je voudrais m'adresser à des chrétiens qui peut-être ont le sentiment de suivre Jésus et de connaître Jésus, etc. Et je voudrais partager un très court témoignage. Récemment, je me suis fait reprendre avec cette parole par Dieu. Il y a 2 semaines, j'ai réalisé que je peux suivre Jésus par mes habitudes de vie, par ce que je fais concrètement, par mes paroles, mais dans mon cœur, je peux freiner et ne plus me mettre à suivre Jésus. Et quand Jésus nous dit « suis-moi », il nous dit « suis-moi jusque dans mes pensées, suis-moi jusque dans mon cœur et vois là où mon cœur se penche, là où mon cœur pleure et pleure avec moi ». Et vous voyez que quand on se met à suivre Jésus, c'est qu'on on devient presque comme lui. On se rapproche de lui et on le suit dans tout ce qu'il vit, dans ses larmes et dans ses joies. Suivre Jésus, c'est profond. Et c'est toute une vie que cela demande. Alors le sens du baptême, ultimement, c'est cela. C'est suivre Jésus. Le sens du baptême, en fait, c'est s'unir à Jésus-Christ dans sa mort et sa résurrection. Le baptême, alors dans notre tradition protestante, on plonge complètement les gens dans l'eau, parce qu'en fait, c'est pas juste l'aspersion, ça signifie C'est un acte symbolique qui signifie une union, une communion profonde avec Jésus-Christ. Et l'eau représente de la terre. Et c'est comme si on mourait avec Jésus et qu'on était enseveli avec lui dans la tombe. Et heureusement, on ne laisse pas les personnes sous l'eau. Alors je crois qu'il faut compter 2-3 minutes pour que ce soit valable, puis après on les tire. Et quand on retire la personne de l'eau, quand on relève la personne de l'eau, ça signifie qu'elle ressuscite avec Jésus-Christ. Donc il y a une identification forte. Et quand on plonge la personne dans l'eau, ça signifie que j'accepte d'aller avec Jésus à la croix. Et que cette nature mauvaise en moi, enfin ce qu'il y a de mauvais en moi, aille à la croix et meure à la croix avec Jésus-Christ. Et c'est pour cela que le chrétien vit parfois et renonce à certaines choses. Parce qu'il a fait ce choix de dire « parce que je suis Jésus, eh bien je renonce à faire des choses que je sais déplaisent à Dieu. Et ces choses-là, je les mets à la croix et elles meurent. » Et c'est progressif, mais la Bible dit quelque chose de très fort. Elle dit « nous sommes morts au péché ». Et le baptême proclame cela. Vous savez, le baptême, c'est le signe visible d'une grâce invisible. Ce n'est pas parce qu'ils vont être baptisés que ça va changer comme ça d'un coup. C'est parce que leur vie a changé qu'ils se font baptiser. Ils témoignent que quelque chose a changé. Et il y a un impact spirituel puissant. Le fait de se relever signifie « je suis né de nouveau avec Jésus ». Et sa vie de résurrection coule dans mes veines. Vous savez, quand on devient chrétien, il y a quelque chose de formidable qui se passe, c'est qu'il y a des désirs nouveaux qui naissent. Et on a envie de faire certaines choses qu'on ne voulait pas du tout avant. Oh, lire sa Bible, mais qu'est-ce que c'est ennuyeux et barbant. Venir à l'église, ah, à quoi ça sert? Et en fait, il y a quelque chose qui s'allume, qui s'active en nous et qui fait que cela devient une joie profonde, une nourriture. Et cela est merveilleux à vivre. Cela est merveilleux à vivre. Alors en conclusion, je dirais, quand Jésus a dit « viens, suis-moi et je ferai de toi un pêcheur d'hommes. » Il s'est adressé à ses disciples, à des apôtres, mais il s'est adressé à des générations d'hommes et de femmes, à ses baptisés. Et en fait, Jésus s'adresse à tous les êtres humains et à tous ceux qui veulent l'entendre. Et la réponse est toujours la même. Si vous voulez, cette invitation, elle est absolument gratuite parce que Jésus a tout fait pour qu'on puisse y répondre. Suis-moi et je ferai de toi quelqu'un, un pêcheur d'hommes. Alors je veux simplement terminer par cette prière et cette invitation que Jésus nous adresse. Seigneur, merci parce que tu es vraiment celui qui change nos vies. Tu es celui qui est capable de transformer nos vies et de nous donner une vie réussie. Seigneur, merci pour ces témoignages. Merci pour le témoignage de ces personnes qui se font baptiser ce matin et pour tout ce qu'elles ont vécu. Et nous te remercions parce qu'aujourd'hui encore, tu rends ces choses possibles. Tu es celui qui transforme nos vies. Amen.